Bienvenue sur l'émission de radio des 1G5. Aujourd'hui, le thème principal de cette radio est l'égalité entre les hommes et les femmes. L'émission est divisée en 5 grandes parties. Un journal sur la protection, une chronique sur les émotions, puis une revue de presse sur la violence, et ensuite un portrait sur la culpabilité, et enfin un jeu sur la réputation. Chacun de ces sujets est associé à une affiche réalisée par une partie de la classe, et ces affiches sont disponibles sur le site du lycée et au CDI du lycée.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out.
6h-9h, c'est la matinale, il est 8h30. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'égalité hommes et femmes et surtout nous intéresser au préjugé suivant, les hommes doivent protéger les femmes. À ma table, nous avons deux invités. D'un côté, nous retrouvons le sociologue Timéo Richard.
Bonjour.
Et de l'autre côté, un membre d'une association d'égalité hommes et femmes, Noah.
Bonjour.
Timéo, parlez-nous de votre métier.
Alors, mon métier consiste à effectuer des recherches historiques sur les origines de certains stéréotypes sur la société. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine de ce stéréotype dans le passé.
Très bien. Et vous, Noah, le principe de votre association ?
Eh bien, je suis membre d'une association qui lutte pour l'égalité hommes-femmes. Pour ma part, je vais vous parler de l'origine de ce préjugé en société actuelle.
Timéo, pouvez-vous nous parler de l'origine de ce préjugé ?
Alors, dès l'Antiquité, le philosophe Platon avait déjà une idée de protection, car pour lui, je cite, « la femme est un être plus faible que l'homme ». On retrouve cette idée également dans la religion chrétienne, car dans la Bible, le Christ protège une femme. On retrouve alors cette protection dans les textes religieux. Enfin, déjà dans le passé, l'idée de protection financière était déjà présente, puisque l'homme devait travailler pour sa famille pendant que la femme devait élever ses enfants et faisait les tâches ménagères.
D'accord, c'est très intéressant, mais ça c'est le passé. Maintenant on doit en penser quoi ? Vous par exemple, Noah, vous en pensez quoi ?
Eh bien aujourd'hui, on peut retrouver certains signes qui pourraient montrer que ce préjugé est encore d'actualité en société. Pour les hommes, c'est peut-être un devoir, une bonne action, une vocation. On veut naturellement aider son prochain. Ça peut parfois même être un besoin. L'homme veut également protéger parce qu'il veut donner une bonne image en société. Il veut se sentir utile. Pour une femme, c'est parfois une envie. Elle a envie que son mari le protège pour se sentir en sécurité. Mais attention, ce n'est en aucun cas vrai pour toutes les femmes. Certaines ne sont pas d'accord avec cette idée reçue. Enfin, on peut penser à la protection financière. L'homme travaille pour sa famille pour la nourrir.
Monsieur, si je puis me permettre, ce que vous dites ici ne sont que des observations.
Oui, j'y venais. Évidemment, toutes les informations que je vous transmets ne sont que des observations. Elles ne sont en aucun cas véridiques et générales. Chacun doit se faire sa propre idée sur le sujet.
Habile. Merci à vous toutes pour ces informations. Bonne journée à nos auditeurs.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out.
Nous passons tout de suite à une chronique, donc je laisse la parole à Aurélien Jacot et Solène Capel.
Les femmes sont plus émotives que les hommes, clichés sexistes ou réalité. On a l'habitude de dire que les femmes pleurent devant des films et qu'elles sont plus émotives que les hommes. Mais quand on dit que les femmes sont plus émotives que les hommes, est-ce qu'on ne sous-entend pas plutôt que les femmes se laissent gouverner par leurs émotions et non par la raison ? Existerait-il un gène de l'émotivité ? Si ça se trouve, c'est le même que celui de la vaisselle. Mais non, ce gène n'existe pas. Alors c'est peut-être les hormones. Une étude de l'Université du Michigan, publiée dans la revue Scientific Reports, s'est penchée sur cette question. Les scientifiques ont rassemblé un groupe de 142 hommes et femmes de 18 à 38 ans et ont étudié leurs émotions pendant 75 jours. Les résultats montrent peu, voire pas de différence entre les deux sexes. On pourrait espérer que les réflexions du genre
« T'as tes règles ou quoi ?»
disparaissent enfin. Mais alors, d'où vient cette idée que les femmes sont plus émotives ? Est-ce que c'est parce que les femmes sont plus encouragées à montrer leurs émotions et à communiquer leurs sentiments ? En effet, dans la société, il semble normal pour une femme de montrer ses émotions, tandis qu'un homme sera vu comme fragile. Combien de fois a-t-on entendu la phrase
« Les hommes, ça pleure pas ?»
De même, si un homme s'énerve pour défendre une idée, on dira de lui qu'il est passionné, alors qu'une femme sera traitée d'hystérique, car une femme doit être douce et calme. Je pense que hommes comme femmes, nous sommes remplis d'émotions, mais notre façon de les montrer est encore différente, car la société nous l'impose, Ce n'est pas parce que les émotions ne sont pas montrées qu'elles ne sont pas présentes. Alors, hommes, ne vous empêchez pas de crier et la société sera bien obligée de s'adapter.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out.
On passe maintenant à une revue de presse présentée par Louis et Salomé.
Bonjour tout le monde. Rappelons le sujet du jour. Les hommes sont plus violents que les femmes. On s'intéressera spécialement au langage misogyne dans la société et donc à la violence verbale. Nous pourrons nous demander si le langage misogyne est présent dans d'autres pays que la France. Commençons donc par la France. Il existe de nombreux mots ou expressions rabaissant la femme tels que « femme laide »,« gonzesse »,« vieille fille »,« garce »,« traînée » et j'en passe, qui peuvent en plus être utilisés comme des insultes. Passons donc au langage aux langues étrangères. Par exemple, en italien, le mot « nana », qui pour la plupart des Français signifie « femme », est à l'origine utilisé en italien signifiant « prostituée ».
En ce qui concerne la langue anglaise, c'est le même procédé. La plupart des insultes sont ramenées à une femme, voire au maire. Son of bitch, bitch, cunt, slut, signifie fils de prostituée et prostituée en elle-même. Pour l'espagnol, on y retrouve une traduction de son of bitch, soit hijo de puta, ce qui signifie toujours la même chose, fils de prostituée. Pour finir, en allemand, blödes Arschloch, traduit, revient à dire en français pauvre con. Mais aussi flitschen, littéralement poufias. Tous ces exemples d'insultes envers la femme, et y ramenant, nous prouvent que le langage misogyne est présent dans plusieurs pays du monde, et toujours dans le sens péjoratif par rapport aux femmes. Nous voilà arrivés à la fin de notre émission, merci de nous avoir écoutés, et à bientôt.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out.
Et maintenant, nous passons au portrait présenté par Romain et Nathanaël, le portrait d'une jeune femme, Jeanne, qui se sent coupable et qui souffre d'anorexie. Jeanne a 18 ans.
Jeanne a 18 ans, quand elle vit une enfance sans problème en Bretagne. Entourée de ses parents, Patricia et Rodolphe, et de son frère aîné Jules. Ses troubles alimentaires commencent alors qu'elle n'est qu'en troisième. Elle a 14 ans. Au début, elle voulait simplement perdre du poids. Elle dit qu'elle ne se sentait pas bien dans son corps et que les études la stressaient. Elle faisait plus de sport, mais discrètement, elle a commencé à éviter les aliments et à réduire les portions. C'est ça qui a lancé l'engrenage.
Elle est devenue moins drôle et plus irritable à cause de la faim. En 3 mois, Jeanne perd plus de 10 kilos. Chaque jour, elle monte sur sa balance et dès que le poids est inférieur à la veille, elle est super contente. Mais dès qu'il augmente, ne serait-ce que de 100 grammes, sa journée est foutue et elle se sent coupable d'avoir échoué. Alors Jeanne se prive encore plus pour avoir la satisfaction que ses efforts paient. Elle agit en cachette car elle sait que ses deux parents l'en empêcheraient. Pour les rassurer, elle mange le maximum devant eux. Elle se voit constamment grosse, même dans le miroir, et a peur de reprendre du poids. À ce moment-là, elle se sent comme anesthésiée de tout sentiment. Comme si elle était devenue un robot et elle voit sa famille comme un obstacle à son projet. Ses années lycée, elle les a vécues obsédées par l'idée de maigrir, jusqu'à ne peser que 29 kg. L'anorexie a anesthésié son bon sens, la guérison a été un long combat, mais ça peut bien se finir et on peut guérir de l'anorexie. Aujourd'hui, Jeanne a 18 ans et elle a stabilisé son poids. Lentement, la maladie s'est éloignée de Jeanne. Aujourd'hui, elle ne culpabilise plus de manger, même des aliments dits gras, et accepte de ne plus tout contrôler.
Merci pour ce portrait, à tout de suite pour la suite de l'émission. Donc nous avons terminé notre émission avec une cinquième partie qui est un jeu présenté par Abigail.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions pour un cliché. Vous savez, les femmes doivent faire plus attention à leur réputation que les hommes. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? C'est sur quoi nous allons interroger nos deux fidèles auditrices à travers une série de questions sur le sujet. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Christine, j'habite dans le Gard, j'ai 43 ans et concernant le sujet, je pense que dans la société dans laquelle on vit, malheureusement, oui, les femmes doivent faire plus attention à leur réputation que les hommes.
Salut tout le monde, moi c'est Olympe, je vis à Nantes et j'ai 22 ans. Contrairement à Christine, je pense que les femmes sont libres de vivre comme elles l'entendent, d'autant plus que la cause féministe s'impose désormais dans la société.
Nous allons commencer le jeu par une série de vrais ou faux. Préparez-vous Christine, voici la première question. La construction des stéréotypes de genre date-t-elle de l'Antiquité ?
Je pense que c'est vrai. Je sais que ça doit faire longtemps, mais quand même pas jusqu'aux hommes préhistoriques. Et si je me souviens bien de mes cours de latin, la société romaine était une société patriarcale. Le père avait tous les pouvoirs au sein de la famille.
Eh bien c'est faux, cela date du néolithique, à partir de la sédentarisation et de l'expansion de l'agriculture. Deuxième question, c'est pour vous Olympe. Est-ce vrai que les auteures féminines de l'époque portaient un nom de plume masculin ?
Je dirais vrai. Il me semble avoir vu ça au lycée. Elles portaient des noms masculins afin de préserver l'anonymat et par conséquent leur réputation. Cela permettait d'éviter les commérages ou encore les représailles.
Oui, c'est vrai. On pense par exemple à Aurore Dupin, plus connue sous le nom de George Sand. Dernier vrai ou faux ? Au sein des forces de l'ordre, y a-t-il des violences qui donnent une réputation négative aux femmes qui portent plainte ?
Vrai, notamment pour les plaintes pour violence. Les victimes sont souvent culpabilisées et leurs souffrances dédramatisées.
Pour cette deuxième partie de l'émission, je vais vous poser une question et la première qui utilisera le buzz me donnera son avis. Pendant quelle période historique l'obsession de la réputation se développe-t-elle ?
C'est doit être pendant le Moyen-Âge où les rois et reines donnaient de grands bals et que les femmes se mariaient très jeunes et dépendaient entièrement de leur mari.
Exactement, cela date bien de cette période. Question suivante, la réputation a-t-elle une influence sur les interactions humaines ?
J'aime à croire que les mentalités ont évolué et que les rumeurs n'affectent plus autant les rencontres ou les relations.
J'aime cette mentalité et je pense que c'est le cas aussi. Maintenant, dans cette unique et dernière partie, je vais vous décrire un personnage qui représente cette première affirmation. Le trouverez-vous ? C'est une jeune et jolie femme.
Oh, comme moi !
Elle a vécu au XVIe siècle. C'est le personnage principal d'un roman. Durant son enfance, on lui a enseigné les valeurs de la vertu et de la bienséance.
Oh, je sais ! C'est la princesse de Clèves, personnage d'un roman très ennuyeux. Toute sa vie, elle a fait attention à sa réputation et à sa vertu. Contrairement à d'autres hommes qui avaient beaucoup d'amantes, elle, elle avait déjà honte d'en aimer juste un autre.
Waouh, c'est exactement ça, vous y connaissez sur le sujet. En tout cas, merci à vous deux pour votre investissement qui fait gagner à Olympe une rencontre avec l'auteur d'Ali Farah. Cette affirmation est un sujet important de la société d'aujourd'hui. Elle représente un préjugé et j'espère que ce petit jeu vous aura fait réfléchir sur celui-ci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée.
Notre émission est terminée, nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous a porté un autre éclairage sur les stéréotypes sexistes. Rendez-vous sur le site internet du lycée pour découvrir les affiches associées à chacun de ces sujets. À bientôt.